J'ose espérer que malgré la fatigue et le territoire que nous avons tenté de couvrir hier soir, que j'étais plus ou moins compréhensible, c'est Stott qui a décrit le ministère pastoral de la manière suivante. Pendant 6 jours, ils sont invisibles, et pendant 1 jour, ils sont incompréhensibles. J'ose espérer qu'hier soir, j'étais un tant soit peu compréhensible. Josué vient de prendre la relève de Moïse. Tout le peuple a traversé le Jourdain et il est entré dans le pays de Canaan. Il y a eu un moment important à Gilgal, plusieurs cérémonies importantes avant donc d'entamer la prochaine étape de la conquête, posséder le territoire. Il y avait donc ce mémorial interactif. Le besoin de circoncire tous ceux qui sont nés pendant la période dans le désert, signe d'appartenance à Dieu de l'Alliance. Et puis, fêter la Pâque, signe de la libération, de la délivrance d'Égypte. Maintenant donc, nous entamons cette deuxième étape, posséder le territoire. Déjà Moïse, de l'autre côté du Jourdain, à l'est du Jourdain, avait dépossédé les 2 rois amoréens de leur territoire. Et cette partie donc du territoire était destinée aux 2 tribus ennemies, Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé. Maintenant, c'est à Josué qui reprend la direction du peuple et qui conduit le peuple dans cette deuxième partie de la conquête pour le territoire des 9 autres tribus et demi. Encore une fois, ce matin, 5 vignettes, 5 regards sur ces nombreux chapitres que nous allons parcourir du chapitre 5 vers la fin jusqu'au chapitre 21. Rassurez-vous, je ne vais pas tout lire, mais en tout cas, nous allons prendre quelques récits pour mettre en évidence certaines vérités concernant la possession du territoire. Toute conquête militaire, qu'elle soit celle sous Josué ou celle dans l'histoire profane, toute conquête militaire, le plus souvent, se déroule en 2 étapes. Il y a une étape d'occupation et puis une étape de consolidation. Et c'est ce que nous constatons dans ce livre de Josué. Il y a sous Josué une étape d'occupation du territoire. À partir de Gilgal, Josué se dirige d'abord vers Jéricho. Ensuite, nous avons le débâcle d'Aï, nous reviendrons là-dessus. Et par la suite, il mène 4 campagnes militaires vers le centre, et le nord, le sud, après Jéricho. Et pendant ces 4 campagnes militaires, Josué occupe le territoire. Mais il y a quantité d'ennemis encore en place, quantité de villes qu'il faut encore vaincre et conquérir. Et après finalement cette étape d'occupation sous Josué, qui tout de même dure 7 ans, il y a toute cette étape de consolidation. Et cette étape de consolidation consiste en ce que les tribus prennent possession de leur territoire respectif. Et chacune des tribus, donc, doit entrer sur le territoire qui lui a été alloué par Moïse et là, en quelque sorte, nettoyer le territoire, consolider les gains. Et c'est là où nous rencontrons la difficulté. Et nous allons aborder cela davantage demain matin, Mais toujours est-il, dans cette étape de posséder le territoire, il y a finalement ces deux axes, occuper, et c'est pour cela qu'à la fin du livre de Josué, nous lisons qu'aucune des promesses de l'Éternel à l'égard de cette conquête sous Josué n'a échoué. Tout ce que Dieu avait promis s'est réalisé. Mais cela ne veut pas dire que finalement le processus de consolidation avait eu lieu et il y avait encore des combats à mener. L'illustration classique dans l'histoire contemporaine, c'est finalement aussi bien Deuxième Guerre mondiale. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, ne serait-ce qu'ici en France, l'Allemagne a occupé le territoire, mais il y avait quantité de poches de résistance. Et pendant cette Deuxième Guerre mondiale, l'étape de la consolidation n'a pas pu se réaliser. Seulement l'étape de l'occupation. Quand nous pensons donc à l'Afghanistan, du temps de l'invasion des Russes, il y avait une occupation avec une mise en place d'un gouvernement sous la coupe de Moscou, mais il y avait une résistance et l'étape de la consolidation n'a jamais pu avoir lieu. D'une certaine manière, l'étape de l'occupation est une étape qui se déroule relativement rapidement. Mais l'étape de la consolidation prend beaucoup plus de temps. Et ces deux étapes, nous les retrouvons ici, dans le livre de Josué, et par la suite, surtout l'échec au niveau de la consolidation, nous le retrouvons dans le livre des Juges. Nous allons donc lire au chapitre 5, à partir de verset 13. Comme Josué se trouvait à Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait en face de lui, son épée nue à la main. Josué marcha vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Il dit, « Non. » Est-ce qu'il y a des profs de français ? « Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Josué fit ainsi. C'est la parole de Dieu. Prions. Devant ta parole, Seigneur, nous ressentons toujours nos insuffisances. Notre connaissance, au mieux, n'est que partielle. Mais cette parole est vivante et efficace. Et elle va encore ce matin accomplir l'œuvre que tu veux dans chacune de nos vies. Et c'est pour cela que nous réclamons l'assistance, l'aide de ton Saint-Esprit. Conduis-nous dans cette vérité pour nous éclairer, dans cette vérité pour nous libérer, dans cette vérité pour nous rendre plus efficaces dans notre service. Et si nous prions cela, c'est pour ton honneur et ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Cinq vignettes. D'abord, ici dans le passage que nous avons lu, Dieu prend le commandement. Bien sûr, tout de suite, on se rend compte qu'il y a un parallélisme avec l'histoire de Moïse, buisson ardent, où Moïse également devait enlever ses souliers, car le terrain sur lequel il se tenait était saint. En quelque sorte, on se rend compte que cette transition de Moïse à Josué s'est fort bien passée. Et tout comme Moïse a été reconnu comme le serviteur de l'Éternel, dans ce livre, Josué reçoit ce même titre, « Serviteur de l'Éternel. Et il fait une expérience tout à fait similaire à celle de Moïse en début de son ministère. Ce que je trouve intéressant, c'est tout comme hier, nous avons vu que l'arche précédait Israël dans la traversée du Jourdain et l'établissement sur le terrain de Canaan. Aujourd'hui, nous voyons dans ce texte, avant de posséder le territoire, que Dieu prend le commandement. Dieu prend le commandement. Ici, me semble-t-il, nous sommes face à une théophanie où Dieu lui-même se dévoile à Josué. Pour preuve, nous sommes devant ce phénomène qu'il est sur un terrain saint. Mais d'autre part, Josué se prosterne devant cet homme et il n'est pas repris. Dieu donc se dévoile à Josué. Mais comme je l'ai fait remarquer, la réponse à la question posée par Josué est tout de même curieuse. Es-tu pour nous ou pour nos ennemis? Non. Parce que dans ce non, il y a toute une leçon. Parce qu'en fait, Dieu est en train de dire à Josué, ce n'est pas moi qui se mets de ton côté. Ce n'est pas moi qui m'engage dans tes projets. Non, Josué, c'est toi qui dois te mettre derrière moi. C'est toi qui dois te mettre à mon service. C'est toi qui dois me suivre. Et cela est une leçon importante dans toute cette étape de posséder le territoire. Nous suivons Dieu. C'est lui qui est au commandement dans cette étape de la conquête. De suite, je vais situer tous ces textes que nous allons parcourir par rapport à une forme d'application. Galates 3:3, où Paul écrit aux Galates, « Après avoir commencé par l'esprit, allez-vous maintenant continuer par la chair ?» En fait, toute cette étape de posséder le territoire, que ce soit l'occupation ou la consolidation, toute cette étape, tout comme entrer dans le territoire, doit être conduite par Dieu. Toute la vie chrétienne est sous le contrôle de Dieu. L'Épître aux Philippiens nous rappelle que « Je suis persuadé, dit Paul, que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne » va la poursuivre, ou plus littéralement, va mettre les touches de la fin et l'achever pour le jour de Christ. Nous sommes confrontés donc à cette prérogative de Dieu. C'est Dieu qui a commencé l'œuvre dans l'église de Philippe. C'est Dieu qui va poursuivre cette œuvre. C'est Dieu qui va achever cette œuvre. C'est l'arche qui précède le peuple dans la traversée du Jourdain. Et maintenant, c'est Dieu qui prend le commandement. Non, Josué, ce n'est pas moi qui m'engage dans tes projets. C'est toi qui te mets à mon service. Deuxième vignette. Je ne vais pas les traiter de manière égale au point de vue proportion. Donc, certaines vignettes, je vais parcourir assez rapidement parce que vous les connaissez. Mais deuxième vignette, la conquête de Jéricho, la prise de Jéricho. Histoire connue. Probablement dans l'école de dimanche, si vous l'avez fait, vous l'avez fait en long et en large, et les négros spirituels et tout le reste, vous connaissez l'histoire de Jéricho. Par contre, deux ou trois remarques sur le texte. Le commandement de Dieu est clairement défini dans ce texte au chapitre 6. D'abord au verset 10, commandement curieux. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez pas, vous ne ferez pas entendre votre voix, et il ne sortira pas une parole de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des clameurs, alors vous pousserez des clameurs. Silence. Pendant 7 jours. Et pendant 7 jours, le peuple doit finalement faire le tour de la ville. Silence. Alors que le peuple vient de traverser le Jourdain, le peuple finalement est dans l'expectative d'une victoire, probablement impatient, voudrait finalement s'emparer de Jéricho. Silence. Et puis en plus, vous allez, avant de prendre Jéricho, faire le tour de la ville. Une fois par jour, pendant les 6 premiers jours, et 7 fois le 7e jour. 13 fois. Je pense que vous ne saviez pas que Dieu est superstitieux. Mais 13 fois. Merci. Au moins une personne qui est réveillée. Et probablement la seule chose qui sera citée suite à ce message. Pourquoi silence? Pourquoi entourer la ville ou tourner autour de la ville 13 fois? Parce que finalement, au terme de ces 7 jours, Dieu est intervenu. Et nous voyons au verset 16, la 7e fois, les sacrificateurs sonnèrent du cor et Josué dit au peuple, poussez des clameurs, car l'Éternel vous a donné la ville. Il était extrêmement important pour le peuple de se rendre compte que c'est l'Éternel qui donne cette ville de Jéricho au peuple. C'est l'Éternel qui remporte la victoire. Le peuple aurait pu, tout de suite après le départ de Gilgal, monter contre cette ville, assiéger cette ville, peut-être remporter la victoire, je n'en sais rien. Mais le risque, si le peuple avait remporté la victoire seul et rapidement, c'est qu'il aurait pu dire, « Ah, vous voyez, grâce à notre stratégie, grâce finalement à nos armes, nous avons pu remporter cette victoire. » Et c'est un thème constant dans l'Écriture. Mais Dieu dit « silence » et contourner la ville 13 fois pour que la victoire appartienne à Dieu. Mais il y a autre chose. Il y a autre chose. Dieu peut intervenir miraculeusement, souverainement, dans des situations. Il le fait d'une certaine manière à Jéricho, puisque les murailles s'écroulent. Mais est-ce normatif? Et finalement, quand on lit le restant du livre de Josué, on se rend compte que ce n'est pas normatif. Il y a des interventions miraculeuses de Dieu, mais il y a aussi l'utilisation des moyens normaux. Et il y a finalement le facteur temps dans ce que Dieu fait dans son œuvre. Et en quelque sorte, s'il fallait attendre 7 jours, s'il fallait contourner la ville 13 fois, s'il fallait maintenir le silence, c'est pour apprendre au peuple aussi la persévérance. Il est vrai que du jour au lendemain, Dieu peut intervenir et opérer un miracle. Mais il est aussi vrai que Dieu utilise le facteur temps comme un outil de pédagogie dans notre vie pour nous apprendre la persévérance. Et si vous lisez la suite du livre de Josué, je vous le recommande vivement, si vous lisez la suite, vous constaterez que les 4 campagnes militaires menées par Josué, contre Jéricho, le centre, le sud, le nord, Negev, ces 4 campagnes militaires durent 7 ans. De telle sorte, Josué, chapitre 11 et verset 18, nous lisons cette conclusion. Josué fit longtemps la guerre contre tous ses rois. Il y a ici donc à mettre ensemble un certain équilibre dans notre réflexion. Dieu peut-il intervenir de manière instantanée, miraculeuse, souveraine? Oui, Dieu merci, il le fait. Est-ce normatif? Non, parce que Dieu se sert du facteur temps pour nous apprendre d'importantes leçons dans notre vie que nous ne pouvons pas apprendre autrement. Et la guerre contre tous ces rois sur le territoire de Canaan a duré 7 ans. 14-19, 39-45, posez la question à ceux qui l'ont vécu, s'il y en a encore de votre connaissance. Et c'était long. C'était long ici aussi. 7 ans. Alors, prise de Jéricho. Dieu conduit dans les combats, mais il utilise les moyens ordinaires. 3e vignette, chapitre 7, jusqu'à pratiquement la fin, en tout cas du verset 29 du chapitre 8. Le péché d'Achan. La victoire de Jéricho est aussitôt suivie d'une défaite cuisante. En fait, c'est la seule défaite militaire dans le livre de Josué. C'est la seule. Et c'est le seul combat où Israël perd des hommes. 36 hommes sont tués suite à cette première campagne contre la petite ville d'Aï. Et devant l'incompréhension de Josué suite à cette défaite, il vient de prendre Jéricho. Et puis maintenant, une défaite terrible, Josué est désemparé. Et il se pose quantité de questions. Comment se fait-il que tu nous as livré Jéricho et maintenant nous avons essuyé cette défaite ici à Haï? Et Josué prie, Josué cherche la face de Dieu. Et Dieu lui dit, arrête, arrête. Il y a le péché dans le camp. Et ainsi est découvert le péché d'Achan. Chapitre 7, les versets 10, 12. L'Éternel dit à Josué, lève-toi, qu'est-ce donc? Tu tombes la face contre terre. Mais Israël a péché. Ainsi, ils ont enfreint l'alliance que je leur avais prescrite. Oui, ils ont pris une part de l'interdit. Ils en ont même volé, même dissimulé et même mis dans leur bagage et ainsi de suite. Je n'ai pas le temps ce matin d'aborder toute cette question de ce jugement de Dieu où il a dit et répété à maintes reprises qu'il fallait vouer à la destruction hommes, bétail et biens. Il ne fallait rien laisser, rien. Rahab était la seule et sa famille. Mais autrement, tout le monde devait être tué. Bétail, hommes et biens matériaux. Mais Achan n'a pas pu résister à la tentation. Et lorsqu'enfin il est découvert, il reconnaît finalement qu'il a été rongé par la convoitise. Finalement, la convoitise est un indicateur de notre insatisfaction personnelle. Et Achan, en quelque sorte, après avoir vécu la traversée du Jourdain avec les autres, après avoir vécu la prise de Jéricho extraordinaire avec les autres, après avoir vu Dieu à l'œuvre avec les autres, il demeure en lui-même profondément insatisfait. Pour lui, ça ne suffit pas. Et il convoite, et il garde manteau, or et quelques effets des habitants de cette ville de Haï. Ce que l'on constate dans cette étape de posséder le territoire, de posséder l'héritage, c'est que très souvent, les grandes victoires peuvent nous rendre négligents. Les grandes victoires peuvent parfois créer en nous un esprit d'euphorie et peuvent nous rendre négligents par rapport au commandement de l'Éternel, ses exigences. C'est quand même un peu sévère cela, non? C'est un peu extrême. C'est quand même un peu intégriste, non? De tout détruire. Et tout de même, Dieu est un Dieu de miséricorde. Il ne va quand même pas m'en vouloir si je prends. Et après les victoires, les succès, les réussites dans notre vie chrétienne, on est souvent piégé par l'euphorie. Nous le verrons encore dans un instant. Le péché, finalement, est la cause de la seule défaite militaire dans le livre de Josué et de la perte de 36 hommes. Quatrième vignette, le renouvellement de l'Alliance. À partir donc du chapitre 8, verset 30, jusqu'à la fin du chapitre. Quoi de plus naturel, après cette découverte du péché dans le camp d'Israël, et finalement la mort d'Achan et de sa famille, quoi de plus naturel que de revenir à l'Alliance et de renouveler l'Alliance? Et c'est ce que Josué fait sur le mont Ébal. Nous n'avons pas le temps de développer les textes de Deutéronome. Mais Deutéronome, qui est finalement le livre au centre de l'Ancien Testament, Deutéronome finalement nous donne toute la loi de Dieu. Et dans les derniers chapitres, du chapitre 27 au 30, le peuple d'Israël se trouve sur deux montagnes, Garizim et Ébal. Et là, sur ces deux montagnes, il prononce les bénédictions qui accompagnent ceux qui obéissent sur le mont Garizim et les malédictions qui accompagnent ceux qui désobéissent sur le mont Ébal. Et Moïse donne comme instruction à Josué qu'après la conquête du pays de Canaan, il doit relire toute cette loi devant tout le peuple. Et si vous lisez ce passage de Josué 8, 30 à 35, vous constaterez que c'est précisément ce que fait Josué. Mais le moment est opportun. C'est de suite après le péché d'Achan, il y a ce retour à l'Alliance. Où on lit et où on réécrit? Sur le mont Ébal, le mont d'où on a lu les malédictions. Et on réécrit toute la loi. Voilà les bénédictions qui accompagneront ceux qui obéissent. Et voilà les malédictions qui accompagneront ceux qui désobéissent. Et tout le peuple est rappelé à l'ordre. Le péché est finalement, dans la grâce de Dieu, un moyen dont Dieu se sert pour nous rappeler à l'ordre, pour nous rappeler sa sainteté, sa justice, pour nous rappeler que tout péché a été finalement la cause de la mort de Christ sur la croix. Ce qui est très étonnant, et je termine avec cela pour cette quatrième vignette, ce qui est très étonnant, c'est que dans Deutéronome chapitre 17, je vous le lis, il y a une instruction qui est donnée à l'avance pour la monarchie. Écoutez bien. Quand il s'assiera sur son trône, les rois futurs, quand il s'assiera sur son trône royal, il écrira pour lui, dans un livre, un double de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs lévites. Chaque roi qui est arrivé au pouvoir dans la période de la monarchie devait, en début de son règne, prendre la loi des lévites et il devait écrire une copie personnelle. Et cette copie personnelle devait être pour lui le fondement de son règne pour qu'il se rende compte que le péché est à exclure et qu'il y a dans la providence de Dieu bénédiction pour l'obéissance, malédiction pour la désobéissance. Et chaque roi devait retranscrire manuscrite, pas sur Word, Page ou je ne sais quoi. Mais chaque roi devait retranscrire manuscrit la loi. Renouvellement de l'Alliance. Et puis, cinquième vignette, un piège, la ruse des Gabaonites. Voilà une tribu qui habite à 10 kilomètres de Jérusalem, sur le territoire qui devait être conquis. Et il y avait quantité d'autres rois qui voulaient finalement créer une coalition pour combattre Israël. Mais les Gabaonites ont raisonné en eux-mêmes et ils devaient avoir connaissance de la clause d'exclusion pour les étrangers, donc pour les peuples, pour les villes, les territoires en dehors du territoire de Canaan. Il y avait une clause d'exclusion. Il ne fallait pas combattre ces villes et ces territoires. Les Gabaonites devaient être au courant. Et donc, ils disent, non, nous n'allons pas faire partir de cette coalition. Nous allons donc auprès d'Israël et nous allons essayer de les avoir par ruse. Et donc, ils y vont avec des vêtements troués, sales, puants. Ils y vont avec du pain rassis. Ils laissent pousser leur barbe, ils donnent l'impression d'être venus de très loin et ils disent à Josué et aux anciens d'Israël, « Nous sommes venus de très loin, nous avons entendu parler de tout ce que Dieu a fait, par votre intermédiaire, aie pitié de nous, permettez à ce que nous devenions vos serviteurs. » Dans l'Écriture, si on veut étudier ce thème de la ruse, on en rencontre plusieurs, que ce soit finalement avec Jacob lorsqu'il va auprès de son père Isaac en prétendant d'être Ésaü, ou lorsque Laban également fait une ruse avec Jacob pour le mariage avec Léa et Rebecca. Il y a quantité de ruses dans l'Écriture, mais les ruses, ce sont des mensonges à durée limitée. Et ils sont découverts tôt ou tard. Dans ce cas, après 3 jours. Après 3 jours. Mais ce qui est navrant dans ce chapitre 9, c'est finalement de lire le verset 14. Josué a cru ce qu'ils lui ont dit. Il a vu finalement que le pain était moisi, il a vu que leurs vêtements étaient troués, et il a conclu, ils disent la vérité. Verset 14. En prit de leur provision, sans avoir consulté l'Éternel. Et cela nous renvoie à Josué 1, où Josué est exhorté à maintes reprises de suivre Dieu, de consulter Dieu, de suivre sa parole. Et ici, Josué lui-même et les anciens d'Israël sont piégés. Josué a cru. Et une fois de plus, je reviens sur cette idée parce que je l'ai vue dans ma vie. Je l'ai vécu à mon dépens dans mon ministère depuis près de 50 ans. Le succès et la réussite dans nos entreprises, y compris dans l'œuvre de Dieu, peuvent constituer, si nous ne faisons pas attention, des peaux de banane, des pièges. Nous avons du mal parfois à éviter une certaine euphorie. Nous pensons par moments, puisque nous avons vécu une intervention extraordinaire de Dieu dans tel ou tel domaine, que tout ce que nous allons entreprendre par la suite doit réussir. Et nous sommes pris par une forme de triomphalisme malsain. Et probablement Josué était pris dans le mouvement de l'euphorie, du triomphalisme, et il a commis une erreur dont les conséquences était de longue durée. Mais je ne pointe pas le doigt à Josué, parce que quand on parcourt les récits de tous ces hommes qui figurent dans l'histoire du salut dans l'Écriture, mais on constate que la plupart d'entre eux ont vécu des échecs majeurs. Nous lisons Hébreux 11, que nous appelons malencontreusement les héros de la foi, C'est faux. Tous ces hommes, c'était des personnes fragiles comme vous et moi. Noé n'était pas plus vite sorti de l'arche qu'il s'est saoulé. Et on avait finalement ce récit avec Canaan. Abraham, le père des croyants, Agar. David, Bathsheba. Gédéon, il construit finalement un éphod qui devient un sujet d'idolâtrie et dans sa famille et une prostitution pour tout Israël. Tous ces hommes dont Dieu s'est servi dans son projet de rédemption, c'était des hommes fragiles, faibles, comme vous et moi. Et la plupart d'entre eux ont été piégés et finalement se sont trouvés dans un compromis. Alors, on constate ici dans le texte l'intégrité de Josué. Il assume la responsabilité. Et c'est ce qui fait toute la différence. Devant, finalement, cette ruse des Gabonites, où il a été piégé royalement, il n'a pas peur de reconnaître sa faute. Ça, c'est l'intégrité de cet homme. Il reconnaît finalement qu'il a eu tort. Et le peuple, finalement, a murmuré. Le peuple était irrité. Et le peuple voulait à tout prix exterminer les Gabaonites. Mais Josué, tout en reconnaissant son erreur, a pris un engagement vis-à-vis des Gabaonites, en promettant de ne pas les exterminer. Et par trois fois dans ce passage, je vous laisse découvrir pour vous-même, mais par trois fois dans ce passage, il rappelle le besoin d'être fidèle à son engagement de ne pas exterminer les Gabaonites. Peuple irrité contre leur chef. Mais Josué intègre, reconnaît sa faute, sa responsabilité, mais respecte ses engagements. Un homme intègre. Mais là, nous sommes confrontés à une question difficile. Et cela mérite encore toute une réflexion et toute une étude. Faut-il respecter nos engagements lorsque ces engagements sont le fruit et fondés sur la ruse? Alors, je n'ai pas le temps de développer, mais c'est tout un sujet. Mais permettez-moi de résumer en disant ceci. Les alliances que nous entreprenons, les engagements que nous prenons, ne doivent pas être rompus, sauf sous certaines conditions, et en particulier lorsque nous sommes encore sous la responsabilité de quelqu'un d'autre qui a droit de veto sur nous. Je m'explique. Si, et c'est un exemple donné dans le livre d'Exode, si dans le cas d'une jeune fille qui a été violée et qui tombe enceinte, normalement, il était question que celui qui l'a violée devait se marier avec elle, même si elle était non consentante ou consentante. Le seul cas d'exception, c'est lorsqu'elle est encore sous la responsabilité de son père et son père pouvait intervenir pour interdire le mariage. Mais normalement, les alliances doivent être respectées, sauf dans ce cas particulier, et Josué a respecté son alliance. Je termine quand même avec un détail particulier dans le texte. Au verset 21, après avoir répété trois fois « Nous allons respecter notre alliance », verset 21, « Qu'ils vivent », leur dirent les princes. Et ils furent employés à couper le bois et à puiser l'eau de toute la communauté. Mais cela ne s'arrête pas là. verset 27. Josué les destina en ce jour-là à couper le bois et à puiser l'eau pour la communauté et pour l'autel de l'Éternel au lieu qu'ils devaient choisir jusqu'à aujourd'hui. Oui, ils sont devenus serviteurs. Josué a respecté ses engagements, mais il les a obligés d'être exposés à l'Éternel. Parce que non seulement devait-il couper le bois et puiser l'eau pour la communauté, mais Josué a rajouté aussi pour l'autel, et cela jusqu'à aujourd'hui. Donc, dans cet engagement de Josué, il a fait en sorte que les Gabaonites devaient constamment s'approcher de l'autel, être exposés à l'Éternel, parce qu'il y a prévision dans la loi pour que l'étranger puisse être intégré au peuple. Josué se relève, reconnaît sa faute, ne vit pas avec un sentiment perpétuel de culpabilité, et à la fin du livre de Josué, devant tout le peuple, il prend l'engagement que nous verrons demain, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Je conclus en disant ceci. Dans cette étape de posséder le territoire, c'est toujours Dieu qui nous conduit. Lui qui nous a fait naître de nouveau dans sa famille. C'est lui qui continue à nous conduire dans cette étape de posséder le territoire, de consolidation. Et nous devons reconnaître que dans cette étape, il y a le péché. Et là, le péché est une entrave dans notre relation avec Dieu et dans notre relation avec les autres, doit être confessé. Mais il y a aussi les pièges où l'ennemi finalement nous séduit de diverses manières. Ça peut être dans le domaine du mariage. Ça peut être dans le domaine de la carrière, de l'avancement. Ça peut être dans le domaine de relations extra-conjugales. L'ennemi est constamment là en train de nous piéger pour amoindrir la gravité du péché et pour nous tromper. Dieu a-t-il réellement dit? Et souvent, et je le vois dans mon parcours, ces pièges finalement nous font chuter. Mais ces chutes ne sont pas définitives, nous ne sommes pas fatalistes. Il y a possibilité donc de se repentir, de se relever et de reprendre la marche. Mais aussi bien devant le péché que devant les ruses de l'ennemi, les pièges qui nous jettent sur notre chemin, devant les deux, il y a des conséquences avec lesquelles il faut vivre. Tout comme Josué a dû vivre avec les conséquences de ce péché d'Acan, 36 Israélites qui sont morts, ou devant le piège des Gabaonites. Les Gabaonites qui étaient là, toujours comme un rappel. Il y a des conséquences, mais il n'y a plus aucune condamnation. Le péché est pardonné, on peut se relever, on peut continuer à servir, mais nous devrions vivre avec ces conséquences. Un grand sujet, posséder le territoire, et nous verrons davantage demain cette deuxième étape qu'est la consolidation des gains, domaine bigrement plus difficile que l'occupation sous Josué.